Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette édition de Radio Linguistica. Notre sujet aujourd'hui est d'une envergure énorme, le Green Deal ou Pacte vert. Je salue ici le journaliste Xavier Dupré qui nous en explique l'enjeu, les mesures concrètes et les risques liés à ce grand projet. Cette contribution de l'Union européenne au combat contre le réchauffement. Qu'est-ce que c'est ça, le Green Deal?
Alors, le pacte vert, le Green Deal, oui, dont on voit bien les dimensions avec Madame von der Leyen sur la vache Europe, et puis cette montée des eaux qui représente. Oui, un effet du réchauffement climatique, je pense que. Alors, définir le Green Deal, c'est d'abord dire que c'est un accord politique qui est porté non seulement par la, qui est porté par la Commission, mais qui est vraiment le fruit d'un consensus au niveau européen. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui nous engage collectivement de manière tout de même assez fondamentale. Alors, cet accord. En fait, il prévoit une réduction des émissions de gaz à effet de serre ici en Europe, hein, donc de la part des pays membres de l'Union européenne, de l'ordre de 55% d'ici 2030. Alors évidemment, ce sont des chiffres qui ont l'air comme ça un peu. Ça ne parle pas nécessairement à tous les auditeurs, mais il faut quand même se rendre compte que on n'a pas découvert. Il y a quelques mois, à la faveur du Green Deal, en 2021, la problématique des émissions de gaz à effet de serre. En réalité, il y a eu une diminution depuis 1990 des gaz à effet de serre. Mais de 1990 à 2018, les économies de l'Union européenne ont diminué leurs émissions de gaz provocateurs qui provoquent le réchauffement climatique. Eh bien, en fait, ils ont enregistré une réduction de 23%. Ce qui veut dire qu'en fait, ici maintenant, donc la base de la diminution de 55%, eh bien, elle porte par rapport au niveau de 1990. Mais ça veut donc dire qu'en fait, on s'engage maintenant à une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 32%, non pas cette fois-ci sur 28 ans, mais sur une petite dizaine d'années. Donc il y aura un mouvement, c'est un mouvement de réduction des émissions qui va être particulièrement intensif et qui va supposer un certain nombre de mesures à terme qui signifient une modification de nos modes de vie. Alors je vois ce joli château sur les nuages. Oui, c'est assez poétique. Alors oui, effectivement, on peut se poser la question de savoir si on va y arriver. Bien, tout d'abord, j'ai presque envie de dire ceci. On verra les mécanismes, si vous voulez, des mesures concrètes, mais en réalité, nous n'avons pas le choix. Nous devons y arriver. Si ces outils ne sont pas adaptés et constituent un échec, il faudra en adopter d'autres. Mais il n'y a pas de possibilité de ne pas avoir un Green Deal au niveau européen. Il y a une urgence climatique qui est réelle.
Oui, d'abord, quelles sont les mesures prévues dans ce paquet?
Alors, on est quand même sur quelque chose de très ambitieux. Si on prend par exemple les quotas d'émission de CO2, hein, donc qui s'échangent sur une bourse CO2, il faut quand même savoir que lorsque ça a été lancé à partir du milieu des années 2000, il y avait énormément de quotas en circulation, ce qui veut dire que le prix de la tonne de CO2 était assez faible en Europe. Il était davantage aux États-Unis, et il n'y avait pas de marché en Chine. Donc on n'était pas non plus, on n'était pas les plus mauvais sur la question. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas cette prise de conscience universelle et peut-être un peu tardive du réchauffement climatique à l'époque. Donc il va y avoir une diminution des quotas permettant légitimement d'émettre du CO2. Ce qui veut dire qu'en fait, le prix de la tonne de CO2 va augmenter en Europe. Évidemment, dans ces conditions, toute une série de travaux, de réaménagement d'infrastructures et de process de production qui sont à la base d'économies d'énergie vont devenir rentables. Ce faisant, bien oui, la dynamique d'émissions va être moins importante en Europe. C'est un premier élément. Vous avez aussi la fin des quotas gratuits dans certains secteurs. Alors, n'oublions quand même pas que le kérosène est très peu taxé, par exemple. Donc, alors c'est pas le cas ici, c'est pas. Mais vous avez des secteurs industriels en Europe qui ont bénéficié de quotas gratuits de CO2. Si on ajoute à ça, c'est un autre domaine, mais le fait que le kérosène est très peu taxé, il y a là quelque chose à faire pour éviter, là encore, bah, tout simplement d'aller droit dans le mur en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a aussi un état intéressant, je veux dire, on n'est pas que dans du curatif, hein, on est aussi dans de l'action directe des pouvoirs publics. La déforestation est un drame du point de vue du réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce que les forêts sont des capteurs naturels de CO2. Donc si on a des forêts, eh bien, on a quand même un élément préventif devant l'émission de gaz à effet de serre, en tout cas l'émission dans l'atmosphère. Tout de même, d'ici une petite dizaine d'années, on s'engage dans le Green Deal, on s'est tous engagés collectivement comme État européen et comme institution européenne, hein, donc c'est toute l'Europe qui est là-dessus, à replanter 3 milliards d'arbres en Europe. Donc je veux dire, c'est la première fois que je vois une telle initiative de reforestation en Europe. Puisque toute l'histoire de l'industrialisation et de la modernité en Europe occidentale et puis centrale, ça a été la déforestation. Nous avons également une volonté de promouvoir les énergies renouvelables et de leur afin que la part dans le mix énergétique européen des sources d'énergie verte soit de 40% en 2030. On peut toujours discuter sur le fait de savoir si des centrales nucléaires sont des filières d'énergie verte. Il est clair que d'un point de vue carbone, elles sont intéressantes. On verra d'ici là, parce que c'est vrai que ce n'est pas encore très concret quand on dit tout ça. Hein. Renouvelable, vert, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais en tout état de cause, ce que je sais, c'est que dans le secteur automobile, cette volonté de promouvoir une société à moindre émission de carbone va avoir des conséquences importantes, puisqu'en fait, on va clairement renforcer des normes restrictives en matière de gaz à effet de serre. Et en réalité, en 2035, le secteur automobile devra, à l'échelle européenne, envisager une reconversion absolument radicale, puisque ce sera une reconversion dans un système de normes zéro émission. Ça veut dire très concrètement la voiture électrique ou autre chose. Mais en tout cas, ça a l'air d'être la voiture électrique aujourd'hui. Donc, on est vraiment sur du zéro émission. Là, il faudra se poser des questions en termes, on en parlera peut-être plus tard, d'accompagnement social. Et c'est une nécessité, puisqu'en réalité, on sait bien que le transport individuel est une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, vraiment, nous sommes sur quelque chose de tout à fait central. Alors parfois, on peut se poser la question, c'est vrai, de la cohérence de certaines mesures qui sont adoptées dans ce Green Deal avec d'autres dispositions budgétaires. Et je pense notamment à l'engagement de rénover, donc aller vers une neutralité carbone en termes d'efficacité énergétique maximale dans les bâtiments publics. Chaque année, les pouvoirs publics européens vont devoir rénover pour 3% de leur patrimoine immobilier. Alors, quand on connaît, en Belgique et dans d'autres pays, l'état de profond. Certains bâtiments administratifs en Belgique sont clairement des passoires énergétiques qui n'ont plus été rénovés réellement, de ce point de vue-là, depuis le milieu des années 70. Sachant par ailleurs, parce que c'est très belge, mais je suis certain que ça parlera à d'autres pays d'Europe, hein, sachant par ailleurs que la tutelle sur les communes est exercée par la région wallonne, au sud du pays. Région wallonne qui est en grande difficulté financière depuis la crise Covid et les grandes inondations de l'été dernier. Comment est-ce qu'on peut faire à la fois tendre vers certains objectifs budgétaires qui ont été définis auparavant, qui sont pour l'heure mis entre parenthèses, et rénover des bâtiments qui sont qui ont besoin d'une vraie rénovation très structurelle dans certains cas. Là, je pense qu'à un moment donné, on sera peut-être dans certains cas obligé de réviser la manière dont on considère certains investissements publics, puisqu'il y a là une nécessité absolue. On est dans une situation d'urgence. En l'état actuel des choses, je crains que la rénovation des bâtiments publics en Belgique et dans d'autres pays d'Europe, il y a des objectifs budgétaires qui sont, voilà, qui correspondent à des sacrifices importants. Peut-être qu'il y aurait lieu à un moment donné de sortir du package de l'analyse budgétaire restrictive, hein, de considérer qu'il y a une utilité majeure pour des travaux de ce type-là et de les sortir des règles qui permettent de tendre vers un certain équilibre des finances publiques. Mais je crains qu'on ne soit dans l'ordre là du château en Espagne, parce que ça va représenter beaucoup d'argent pour certains États au niveau de pouvoir ou d'autorité publique qui sont quand même financièrement la sous pression. Donc, et surtout depuis la crise Covid, là, ça c'est les finances publiques, ça il faut, c'est très clair, se sont clairement dégradées un peu partout. Et nous avons quand même quelque chose qui restera très important, c'est qu'on va aller vers des taxations de certaines énergies qui étaient, bon, d'abord qui sont émettrices de gaz à effet de serre, mais qui jusqu'à présent étaient quand même très peu taxées. Je pense notamment au kérosène, parce que c'est vrai que je parlais tout à l'heure de modifications de nos modes de vie en ce qui concerne le secteur automobile. L'aviation sera également concernée par ce type de réaménagement de nos modes de vie. Et donc, un kérosène plus cher, ça veut dire aussi que un certain nombre de voyages en avion, de sauts de puce en avion, ne seront plus aussi intéressants économiquement qu'aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on utilisera peut-être davantage le train, ou on privilégiera parfois bien la réunion que nous avons ici par Skype. Donc, il est peut-être important de songer à tout ça. Mais de ce point de vue-là, oui, l'aviation est concernée et la taxation du kérosène est, à mon sens, inévitable à moyen terme. Et alors, évidemment, mais ça, on devrait en parler en termes davantage de politique commerciale que strictement de politique environnementale, nous allons devoir taxer certains de nos partenaires commerciaux sur le plan international.
Puisque... Pardon ? Oui, si j'ai bien compris, il s'agit d'une douzaine de mesures. 12, c'est toujours bien, c'est un chiffre mythologique, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, etc. C'est donc, vous avez déjà mentionné les voitures, ce qui concerne les citoyens directement. Peut-être ils ne vont plus acheter une voiture chère parce qu'ils ne savent pas quelles seront les mesures, parce que ça ne sera certainement pas d'un jour à l'autre, mais lentement, les conditions pour les voitures normales, si j'ose dire, seront plus mauvaises. Et puis, il y a évidemment le bâtiment. Là aussi, il y a, là, c'est plutôt positif qu'on aura peut-être des contributions pour isoler la maison, etc.
Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, sur le chapitre voiture, qui est un chapitre important et qui, à mon avis, est assez, pour l'instant, angoisse plutôt les consommateurs et les consommateurs européens, à partir de 2030, les voitures électriques seront moins chères que les voitures thermiques, à moteur thermique. Donc, on va aller vers. Bon, faut être... D'ici 2 ou 3 ans, on va remettre en France, ça aussi c'est très symbolique. Je n'avais pas songé aux 12 tribus d'Israël, mais là c'est plus concret. La Renault 4 va revenir sur le marché. Donc ce sera une Renault 4 électrique. La Renault 4 électrique, dans 2 ans, coûtera environ 22 000 euros, le modèle de base. À partir de 2030, il sera nettement moins cher. Et en 2035, au moment où s'opérera la transition vers la voiture électrique, à ce moment-là, on aura des prix qui seront relativement comparables à ceux qui existent aujourd'hui. Et la voiture électrique deviendra non plus une voiture de niche telle qu'on l'a connue jusqu'à présent, avec ces Tesla à la fois luxueuses, coûteuses, surpuissantes et esthétiquement assez jolies à voir, mais on va entrer dans l'ère de la voiture électrique de masse. Donc là, on sera dans tout à fait autre chose, ce seront d'autres standards, mais avec des autonomies qui seront sans doute renforcées par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur certains modèles d'entrée de gamme, en réalité, la Dacia Spring notamment, et qui est assez peu coûteuse. Hein. Dans quelques années, ce type de modèle voiture faiblement autonome mais adapté à la ville ne coûtera plus 17 000 euros. En Belgique, c'est le prix pour une Dacia Spring. On sera vraisemblablement aux alentours de 10 ou 12 000 euros. C'est-à-dire le prix d'une Dacia thermique aujourd'hui. Donc, je crois que là, vraiment, on peut rassurer le citoyen. Ensuite, effectivement, il y aura lieu d'aider un certain nombre de ménages pour pouvoir effectuer cette transition énergétique. Bon, de toute manière, bon, vu le prix de l'énergie qui va augmenter, et il a déjà augmenté de manière structurelle depuis 2007, pour un grand nombre de ménages de classe moyenne, en réalité, eh bien, il va falloir investir sur son bâtiment, sur sa maison, sur son appartement. Ça crée aussi du travail, je veux dire... Bon, 20 000 euros pour isoler, passer une isolation complète, je ne parle pas, c'est pas pour parler de moi, mais c'est un petit peu des travaux que j'ai en prévision dans les années qui viennent. Oui, c'est clair que c'est un placement financier que je ne ferai pas. Mais en même temps, je ferai travailler une entreprise qui emploie des gens et vraisemblablement qui paie sans doute davantage d'impôts que certains mécanismes, que certains investissements financiers, hein, je veux dire, certains fonds d'investissement. Donc, je ne pense pas que l'économie y sera perdante. Maintenant, ce qui est très clair, c'est qu'il va falloir accompagner socialement une partie de nos populations en Europe qui n'appartiennent pas aux classes moyennes ou aux classes moyennes supérieures. Ça, c'est très net.
Bon, on parle tout de suite des conséquences sociales de ce pacte vert, mais pour l'instant... Quel est l'impact du Green Deal pour nos partenaires commerciaux? Vous avez déjà mentionné qu'il faudra peut-être taxer nos partenaires.
Oui, oui, c'est très clair. C'est-à-dire qu'en fait, ça faisait partie des 12 mesures. Je n'en ai cité que 11. Donc j'étais plus intéressé par la symbolique d'une équipe de football que par celle des 12 apôtres. Mais donc, effectivement, c'était une 10e mesure. C'est que cette taxe carbone aux frontières, elle va frapper un certain nombre de partenaires commerciaux de l'Europe qui fournissent le gros du contingent de nos importations. Alors là, il ne faut pas dire quels sont les pays qui sont visés. On les connaît tous, hein, les grands pays émergents. Russie, Chine, Inde, Brésil. On parle aussi, oui, c'est vrai qu'il y a... Il y a un gazoduc qui passe par là pour l'instant et c'est compliqué de l'Ukraine. Oui, ça c'est clair, il y aura un peu de... je ne sais pas très bien ce qui va se passer avec le gaz en Ukraine. Je ne m'avancerai pas trop, mais en tout cas, les grands pays émergents seront tous visés par ce type de taxe. Bien, on les sent aux abois. En même temps, ils ont besoin du marché de consommation européen. Donc, à eux de faire un effort de reverdissement de leur process de production. Et ils ne seront pas concernés par cette taxe, puisqu'ils ont besoin de notre marché. Cela dit, il faut quand même se rendre compte que le Green Deal, quelque part en taxant ses productions, nous protégeons la compétitivité de nos industries. Parce que pour ces dernières, le Green Deal va quand même signifier une fin de la subsidiation de la consommation d'énergie fossile. dans certains cas. Ce qui veut dire que quelque part, eh bien, avec ce que coûte le travail en Europe, ce que coûtent les solidarités sociales en Europe en termes de fiscalité, eh bien, ces subsides étaient malgré tout un élément clé de leur compétitivité. De telle sorte qu'aujourd'hui, taxer un certain nombre de grands partenaires commerciaux de l'Europe, eh bien, relève quelque part d'une volonté de rééquilibrage des échanges. C'est-à-dire, si on supprime les subsides, il faut être très très clair, si on supprime les subsides à la consommation, la subsidiation de consommation d'énergie fossile pour des filières industrielles chez nous, et que dans le même temps on ne taxe pas des importations en provenance de Chine, bah, ça s'appelle livrer pieds-poings liés son industrie aux Chinois. Il ne faut pas faire un grand dessin par rapport à ça. Donc je pense qu'on est là-dessus dans une volonté d'équilibre. Il y a un sacrifice qui va être fait par certaines de nos filières, et il est important de contrebalancer ça, parce que tous les pays du monde, toutes les grandes zones économiques de la planète, ne vont pas s'engager de manière aussi résolue vers une neutralité carbone. Et à mon avis, la question de la neutralité carbone, puisque là j'ai mentionné les grands pays émergents, mais à terme, vraisemblablement, des dynamiques de libéralisation avec les États-Unis seront compliquées parce que je ne les sens pas aussi volontaristes que l'Union européenne en matière de réduction des gaz à effet de serre. Donc là, on tient quelque chose qui, vraisemblablement, bloque structurellement pour une génération l'existence éventuelle et très hypothétique d'un traité transatlantique.
Eh bien, on a déjà parlé un petit peu des conséquences sociales de ce Green Deal. Par exemple, en Allemagne, on dit il faut être assez riche pour être vert. Parce que, par exemple, on habite au centre-ville, on n'a pas besoin d'une voiture. On peut bien exiger de voitures électriques qui, pour le moment, sont très chères, peut-être. Comme vous l'avez dit, dans 10 ans, ils sont beaucoup moins chers. De toute façon, il y aura certainement des défaillances sociales. Alors, est-ce que le Green Deal prévoit quelque chose pour combattre cette conséquence?
Oui, ça c'est clair que pour l'instant, je pense que je ne peux que donner raison au bon sens et au pragmatisme germanique, puisque il faut effectivement être assez riche aujourd'hui, appartenir au moins à la classe moyenne pour effectivement s'engager en faveur d'un verdissement d'une partie, sinon de la totalité, en tout cas d'une partie de sa consommation, notamment d'énergie. Ça c'est très net, hein. De toute manière, on voit bien que les voitures neuves qui sont vendues en Belgique aujourd'hui, mais dans toute l'Europe, hein, ça reste encore des voitures thermiques pour des raisons de coût. La voiture la plus populaire, qui a été la plus populaire en 2021 en Europe, c'est la Dacia Sandero. C'est tout sauf une Tesla, hein, je veux dire, que ce soit en termes de coût, de luxe et d'énergie. Donc oui, il y a un effort qui va devoir être fait. Ce d'autant que nous ne savons pas encore, puisque pour l'instant toutes les économies sont sous cloche, avec des mesures de tolérance exceptionnelles pour les déficits budgétaires, mais dans 2 ou 3 ans... Si la situation sanitaire, et si tu as souhaité, revient à la normale, il faudra remettre de l'ordre dans les finances publiques. Alors on peut le faire de manière plus ou moins intense, plus ou moins longue, en sollicitant davantage la solidarité plutôt qu'en sabrant dans les dépenses, mais ce sera un effort apporté par les ménages. Donc, il y a un effort à faire sur le plan social, et il est fou de dire que l'Union européenne n'a rien fait et ne fera rien à travers le Green Deal, c'est fou. Puisque aujourd'hui, un fonds social pour le climat est en voie de constitution. J'ai bien dit en voie de constitution. Mais le Green Deal, c'est 2021. Bon, on est début 2022, donc tout ne va pas se faire en 5 minutes. Mais en tout cas, ce fonds social pour le climat, il est prévu. Comment va-t-il être alimenté? Eh bien, il va être alimenté, en réalité, par les revenus générés par le fait que les quotas de CO2 vont être de plus en plus coûteux. Donc, quelque part, il s'autofinance par une activité de marché. Bien. Et ce fonds pour le climat, ce fonds social pour le climat, va permettre d'accompagner les ménages modestes, mais aussi d'accompagner des fonds d'innovation industrielle qui vont permettre ben, finalement à des petits secteurs, à des PME, de pouvoir financer ou de recevoir des cofinancements en vue de l'aménagement de solutions alternatives qui permettent des économies d'énergie et qui permettent aussi la promotion de modes de transport beaucoup plus efficaces sur le plan énergétique. Bien, alors on peut toujours se dire que ce sera trop peu, que ce n'est pas assez soutenu par de la fiscalité directe, que c'est une activité qui est une dérivée de l'activité des marchés. C'est vrai. Mais enfin, les mêmes qui disaient il y a encore 5 ans l'Europe ne fait rien pour la transition énergétique, ce sont les mêmes qui se plaignent aujourd'hui que l'Europe fait tout mal. Bon. À un moment donné, il faut prendre des responsabilités et la perfection n'existe pas, je veux dire, et des problèmes, il y en aura. L'important, c'est d'avoir une volonté politique d'accompagner les choses. Maintenant, ce que je sais, c'est que le prix de la tonne CO2, il va nettement augmenter dans les années à venir. Donc, la pérennité du financement de ce fonds social pour le climat, ça, en termes de structure, de mécanisme de financement, ça, c'est bien pensé. Et vraiment, je suis convaincu. Maintenant, est-ce qu'on pourra répondre à tous les besoins? Sans doute non. Et là, certains choix politiques devront être effectués par des États membres. Ben, je veux dire, en Belgique, nous sommes les spécialistes, par exemple, pour ce qu'on appelle les crédits d'impôt. On est allé jusqu'à ce que certains hommes d'affaires et professions libérales puissent exonérer de leur impôt à titre de frais de représentation des montres Rolex. Bien. Je veux dire, il n'est pas nécessaire d'aller bien loin et de provoquer, si je vois un monsieur qui est en gilet jaune, il n'est pas nécessaire de sortir, c'est pas nécessaire de sortir dans des mouvements très, très durs comme ceux-là pour obtenir des réponses. Je veux dire, une Rolex, un achat de montre ne concerne pas les finances publiques. Mais on a été très très loin, et en Belgique, on sait aussi que les voitures de société représentent un argent important. Il y a lieu de revoir en France notamment certaines niches fiscales qui permettaient d'échapper à certaines formes de taxation des revenus supérieurs. Donc, je pense que les États membres vont être mis devant leurs responsabilités. En tout cas, je n'ai jamais vu un fonds social de transition vers une basse émission, en fait une économie de basse émission, être structurée au niveau des États membres. Ça n'existe pas en Belgique. Ça n'existe pas en France, ça n'existe pas davantage en Italie ou en Allemagne. Donc on avait besoin de l'Europe pour le faire. Donc ça ne répondra pas à tous les besoins, mais ça permettra au moins d'enclencher une dynamique qui jusqu'à présent est complètement absente. Hein.
J'ai du mal à comprendre cela. C'est peut-être un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il n'y avait pas une taxe structurée?
Non, en fait, si vous voulez, c'est un mécanisme à ce point structuré à partir des marchés financiers, parce que les quotas de CO2, ils s'échangent sur une bourse des quotas au CO2. Si à partir des revenus générés par l'échange des quotas, vous pouvez financer, hein, faire percoler une partie de ces revenus sur un fonds, ben, quelque part, vous taxez une activité financière pour financer un fonds social climat. Ça, je ne l'ai jamais vu dans aucun organisé au niveau d'aucun État membre de l'Union européenne. Donc, quelque part, si on progresse, c'est en partie parce qu'il y a des mécanismes européens. Ah, je vois blackout. Là, ça me fait très peur. Nous ne sommes pas en panne, Conrad, rassurez-moi.
Oui, c'est-à-dire, c'est... Admettons que les voitures électriques sont extrêmement... ont un succès inattendu. Tout le monde maintenant se jette sur les voitures électriques et on achète et évidemment consomme de l'énergie, de l'électricité. Et j'ai lu que déjà au Royaume-Uni, le réseau a été sous tension et on a dû couper les bornes électriques pour les voitures pour sauver l'électricité pour d'autres domaines plus importants. Alors, et c'est aussi une discussion en Allemagne, est-ce qu'un jour, avec cette politique, on aura des blackouts comme on en a eu déjà aux États-Unis parce que le réseau était vétuste?
En l'état actuel des choses, très franchement, oui, c'est très net. Je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui. Alors, c'est pas mon côté. Enfin, voilà, c'est. Si vous voulez, on a beaucoup abordé ces dernières années le dossier énergie en Europe. Et donc, j'ai presque envie de dire dans chaque société européenne, c'était pas le fait des institutions européennes, dans nos sociétés en Europe, ça a été abordé de manière très idéologique. Et donc. Je sais, par exemple, qu'il y a un besoin aujourd'hui d'électricité qui sera évidemment nettement supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Nos économies vont continuer à croître. Nous allons continuer à avoir des industries en Europe. Et c'est tant mieux, je veux dire. Ce serait vraiment une catastrophe si on n'avait plus d'industrie en Europe. Et nous allons devoir. Alors, tous ces secteurs fonctionnent avec, comme source d'énergie, l'électricité. Et jusqu'à présent, la mobilité individuelle, la voiture, c'était le fait du pétrole. C'était une autre filière énergétique. Donc forcément, nous allons consommer davantage d'électricité. Si nous consommons davantage et que nous produisons les mêmes quantités, il n'y a pas de secret. Un enfant de 5 ans le comprendrait. Nous allons tout droit vers le blackout. Donc je pense qu'il est nécessaire à l'avenir. Je le crois de plus en plus. Je lis... c'est très amusant. Hein, les institutions européennes, on n'a pas envie d'y travailler parce que franchement... C'est le plus sûr moyen d'être toujours critiqué quand on fait quoi que ce soit en Europe. C'est assez amusant parce que il y a quelques années de ça, les milieux verts portaient terriblement tout le marché de quotas de CO2, ils en voulaient plus. Il fallait que ce soit... Maintenant, c'est plus cher. Et on est en train de dire que finalement, le nucléaire pourrait devenir une source d'énergie non fossile, quelque part, de l'énergie verte. Et là, on sent ces mêmes milieux qui demandaient une augmentation du prix de la tonne de CO2, et qui l'ont obtenu en plus. Maintenant, aujourd'hui, c'est une horreur, l'Union européenne, la Commission européenne est pro-nucléaire. Mais je ne connais pas d'autre manière jusqu'à présent de produire de l'électricité qui soit durable, bon marché et massive en Europe. Alors, oui, il y a une nécessité, et ça se sent très fort quand on parle, enfin, ça se lit dans la presse économique française. Il y a sans doute une nécessité pour lancer un plan Marshall européen du nucléaire, qui devrait être, à un moment donné, complémentaire du Green Deal. Ça, pour moi, c'est inévitable. Alors, peut-être qu'on refusera de le voir, de le dire, pour diverses raisons. Dans ce cas-là, n'oublions pas qu'aujourd'hui, les Chinois travaillent déjà sur la fusion nucléaire. Ça veut dire que notre fourniture d'électricité, notre production d'électricité sera peut-être dans 10 ou 15 ans, 20 ans, totalement tributaire de la Chine. Donc ça veut dire qu'on aura quelque part abandonné notre dépendance au pétrole et aux pays de l'OPEP pour la troquer contre une dépendance à la filière nucléaire chinoise. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne affaire. Et là, je crois qu'il y a lieu de se dire que oui, on risque des blackouts. Donc, il y a une nécessité à réhabiliter le nucléaire. Voilà, donc ça prouve... Ah, oulala, mon Dieu, ça fait très peur, ça, ce dessin.
Oui, bon, c'est le mythe d'Ulysse qui doit passer entre deux monstres. Le monstre, le Charybde, un gouffre dans la mer, et la Scylla qui a beaucoup de têtes. Alors... Mmh. Moi, j'ai choisi ça pour montrer qu'on n'a pas de choix. Il faut faire un passage difficile entre le gouffre de réchauffement climatique et les risques multiples. C'est l'autre monstre, les risques multiples des défaillances sociales, de risques de blackout et de perte de compétitivité, surtout au début, quand les pays plus ambitieux investissent plus dans ce domaine, évidemment, on aura peut-être une perte de compétitivité. Mais comme vous l'avez dit, il faut taxer les concurrents qui sont moins ambitieux.
Oui, ça c'est très net. Hein. Donc ça là, je pense qu'on a trouvé, sur la question de la compétitivité, je ne pense pas. Alors, c'est vrai qu'elle est très interpellante, parce que la compétitivité de l'industrie européenne, c'est l'emploi en Europe, et c'est le financement de nos systèmes sociaux. Donc c'est vraiment un dossier qui peut être inquiétant. Mais je ne pense pas que ce soit ça qu'il faille redouter le plus dans cette stratégie de nécessaire transition énergétique. Parce que là, vous savez, la compensation de défaut de compétitivité par des taxes diverses et variées, ben, j'ai presque envie de dire que ça fait partie du commerce international depuis que des cités antiques ont commencé à échanger entre elles. Hein. Donc là, on va taxer un certain usage de l'énergie. Donc là, c'est pas ce point qui m'amène à douter davantage, qui provoque le plus d'angoisse chez moi. Mon angoisse, elle va être liée à la question des blackouts, donc à la raréfaction de l'offre d'énergie, donc forcément à des tensions sur les prix qui vont handicaper les ménages les plus modestes. Là, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut pouvoir avoir un débat dans les années à venir sur le mix énergétique européen, et il va falloir sortir par une grande prise de conscience collective, sortir du mythe de la transition. On parlait tout à l'heure de château en Espagne. Eh bien, il y a une autre figure espagnole, c'est les moulins à vent de Don Quichotte qui me vient à l'esprit aujourd'hui. Si la transition énergétique en Europe, ce sont des moulins à vent, alors nous deviendrons les Don Quichotte de la transition énergétique. C'est vraiment, il nous faut penser que, si vous voulez, la technologie n'est pas l'ennemi de la transition énergétique. Le progrès technique peut participer à la transition, et notamment le secteur nucléaire. Il a encore un rôle à jouer et il est important.
Bon, sur cette note optimiste, nous finissons notre émission sur le Green Deal. Évidemment, on n'a pas pu épuiser le sujet, c'est impossible vu l'envergure de ce projet et l'envergure des enjeux, des risques. Eh bien, mais on a voulu donner un petit résumé de ce que c'est le Green Deal. Eh bien, merci beaucoup et à la prochaine fois.
Merci beaucoup, Conrad.